souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Je suis un marginal, anarchiste, faut pas charrier, j'ai du blé, je peux pas dire ça. Et marginal, mais...
Janine Marc Peset, Michel-Alain Barjou, Alain Poulange, Serge Gainsbourg et Léo Ferré.
Ni Dieu, ni maître.
Serpent qui danse de Charles Baudelaire, chanté par Catherine Sauvage, vous l'avez reconnu, sur une musique de Léo Ferré. Et c'est sur ce même poème de Baudelaire, elle nous l'a raconté hier, que Serge Gainsbourg lui aussi composa. La chanson de Gainsbourg s'est appelée tout simplement Baudelaire, et bien sûr Catherine Sauvage la fit également sienne.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau.
Catherine Sauvage, interprète, comme hélas il n'en existe plus, Catherine Sauvage, guetteur de chansons, chasseur d'auteurs, une des toutes premières à avoir servi les œuvres de Gainsbourg, et quelques années plus tôt, celle de Léo Ferré.
Je trouve que Catherine Sauvage a été la première qui a osé chanter mes chansons, et osé chanter la plupart de mes chansons, car je me souviens très bien, nous chantions dans un cabaret de Saint-Germain-des-Prés, dans le même cabaret, tous les deux, et chaque soir, Madeleine lui apportait les chansons que j'avais écrites, enfin des tas de choses, des chansons que j'avais à la maison. Elle les copiait, car elle s'est elle-même copié la musique, elle transposait même, ce qui est rare, elle connaît le solfège, et elle nous les rapportait le lendemain. Et peu à peu, petit à petit, elle s'est mise à chanter le Ferré, et après, elle a enregistré des disques, et ça qui a été très important. Et comme ces disques ont été techniquement bien faits, elle a eu l'audience beaucoup plus grande, elle a fait connaître toutes mes chansons. Je pense qu'elle a la voix qu'il faut pour la chanson, pour le micro, et la diction, et l'intelligence du texte. Elle comprend ce qu'elle chante, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres.
Ça, c'était le 17 juillet 1955, hommage du maître à sa divulgatrice. Dans l'émission, présente également Catherine Sauvage, qui, elle, raconta leur parcours commun.
Je crois que nous avons débuté, pas exactement ensemble, car Léo a dû débuter un an ou deux ans avant moi, mais nous nous sommes très vite rencontrés à Saint-Germain, puisque c'était le seul endroit où on nous permettait de chanter, soit lui, soit moi. Et très vite, on est passé dans les mêmes boîtes. J'ai entendu ses chansons et je me suis mise à les chanter.
Oui, quelles étaient les boîtes dans lesquelles vous passiez justement? Il y a un point d'histoire de la chanson qui mérite d'être précisé.
Eh bien, la première était une toute petite cave près de Saint-Thomas d'Aquin qui s'appelait le Quai de Libette. C'est la première fois où j'ai travaillé avec Léo Ferré. Ensuite, on s'est retrouvés aux Trois Maillets, à l'Écluse, à la Huchette, au Collégine. J'ai d'abord connu Léo avant de connaître ses chansons. J'ai d'abord connu les chansons chantées par Léo, et seulement après, je me suis mise à les chanter, quand je l'ai connue. Au début, Léo et moi, on passait donc à Saint-Germain. Alors à Saint-Germain, le public était absolument d'accord avec les chansons de Léo Ferré. Au contraire, ils aimaient beaucoup ça, ils étaient ravis. La difficulté venait beaucoup plus des éditeurs, des directeurs de salles, qui ne voulaient absolument pas entendre des chansons de Ferré dans les cabarets des Champs-Élysées ou enfin au Music Hall. C'était surtout de là que venait la difficulté.
Et à partir de quel moment cette difficulté a-t-elle été par vous vaincue?
Eh bien, il a suffi d'une seule chanson pour me faire passer la scène.
Oui.
Et en même temps, pour me donner un certain nom, puisqu'en 3 mois, le disque de Paris Canaille a été pratiquement dans toute la France, dans toutes les machines à sous, et tout le monde l'a su par cœur.
Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, ta vieille guenille, et tes gueulons.
Thank you.
Catherine Sauvage et Jacques Loussier au piano, remarquable. Paris Canaille, la chanson de Léo Ferré qui permit à l'auteur et à l'interprète de franchir les frontières et de s'offrir bien des signes extérieurs de bonheur.
Un jour j'avais été chez Piaf et je lui avais, je sais pas pourquoi, je lui ai dit je voudrais faire voir une chanson la poésie de Baudelaire. Elle m'a arrêté tout de suite, il me dit, ah Léo, Baudelaire pour moi c'est sacré. Alors je me suis levé, et puis j'allais partir, il me dit, écoutez, faites-moi une chanson quand même, comme ça, n'est-ce pas? Parce que écoutez, René Rousseau, avec la complainte du pauvre Jean, il a acheté une maison dans le département de l'Eure, pas loin de Paris. Et je lui ai dit, elle se les plie plein la tronche, hein. J'ai dit, vous savez, Edith, Catherine Sauvage, avec Paris Canaille, j'ai pu acheter une maison dans l'Eure à 10 km de celle de Rousseau. Et c'était vrai. Alors là, elle est restée le bec dans l'eau comme ça. Hein.
C'est difficile de dire ce qui est le plus étonnant parce que tout est étonnant. C'est-à-dire qu'en même temps, c'était l'époque où il s'accompagnait au piano. Mais à cette époque-là, il avait un côté diabolique un peu comme ça. Hein. Puis il aimait bien un peu les effets diaboliques, c'est vrai. Monsieur William avec l'éclairure de la fin, tout ça. Mais ça me plaisait beaucoup d'ailleurs. Et puis ce qui m'a beaucoup frappé, c'était l'écriture. L'écriture, c'est fantastique. Le sens du raccourci. Et en même temps, il y avait ce mélange fascinant d'une écriture relativement difficile pour le grand public, mais qui était véhiculée par une musique extrêmement, non pas facile, une musique très bien écrite, mais une musique qui se retenait, qu'on avait tout de suite dans l'oreille. Si vous demandiez aux gens, Paris Canaille a été un énorme succès, ça a été traduit dans le monde entier, dans toutes les langues. Et Paris Canaille, si vous demandiez à n'importe qui de vous citer, 10 phrases de suite de Paris Canaille, personne ne les connaît, c'est impossible, parce que c'est une langue qui n'est pas facile du tout, c'est un argot très littéraire, très, très écrit. Pour moi, Léo, ça a tout de suite représenté... Bon, moi, je suis typiquement une interprète, j'ai jamais rien écrit, j'ai toujours été attirée par les beaux textes. Et tout ce qu'écrivait Léo, ça me semblait être du sur-mesure pour moi au début. Enfin, c'était vraiment... je sais pas, ça me semblait l'idéal. Alors, j'ai tout de suite demandé à Léo si je pouvais chanter, bon, quelques chansons. J'ai commencé par Monsieur William, qui était la première que je chantais de lui. Et puis après, j'en ai chanté de plus en plus, si bien là c'était en 49. Alors après, on a fait des tas de cabarets où on était dans le même programme. Alors on se mettait d'accord, on disait, bon alors tu me donnes celle-là, je te reprends celle-là. Enfin, on se faisait comme ça des tas de micmacs. Mais alors Paris Canaille, on voulait pas céder ni l'un ni l'autre, parce qu'évidemment c'était celle qui marchait le mieux. Et alors lui débutait son tour avec Paris Canaille et moi je finissais le mien avec Paris Canaille. Les clients avaient deux versions de Paris Canaille dans la même soirée, mais ça on n'a pas cédé pour celle-là, on n'a pas cédé.
La collaboration Léo Ferré-Catherine Sauvage ne se borna pas à quelques impérissables succès. Catherine Sauvage choisit à son habitude des chansons percutantes, dérangeantes, choquantes même parfois, faisant fi des critiques et de la censure.
Au mois d'avril, j'ai enregistré 13 chansons dans les studios de la Compagnie Phonographique Française. La rue Hoche à Paris.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai pas fait ça dans un tunnel. Il y avait des musiciens. Et j'ai enregistré ça. On m'a dit que c'était très bien. Et le disque a été pressé avec 13 chansons. Le disque était actuellement chez mon avocat. Le disque a été pressé avec l'étiquette, avec le nom de toutes les chansons, avec le minutage, même des chansons pour faciliter. Même ils sont très gentils pour les gens de radio, n'est-ce pas? Tout a été changé à un moment. On ne sort plus que le disque avec 12 chansons parce qu'on a retiré du disque que je veux, qui paraisse, une chanson que j'ai écrite pour Une chanteuse morte, ça s'appelle À une chanteuse morte, une chanteuse que tout le monde a connue, tout le monde a aimée.
Nous allons dire des noms, oui,
Edith Piaf.
Piaf, oui. Bien sûr.
Et on s'est ému, un marchand, je ne sais pas comment on appelle ça, un imprésor, non.
Oui, un imprésor.
Un manager.
Manager,
oui. Je dis à la fin à Edith, vous savez, j'ai fait une chanson affectueuse, mais un peu bourrue. Et je lui dis, on ne t'a pas remplacé, en substance, quoi que pense et que dise et que fasse M. Stark. Bon.
Vous avez parlé de M. Stark pour deux raisons.
Parce
d'abord, pour la rime.
C'est pas exclu, vous savez. Et d'autre part, ça rime avec lampe à arc.
Voilà.
Et d'autre part, il est évident que fabrique des objets manufacturés. Moi, je ne suis pas contre les objets manufacturés, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Pendant que j'ai une bonne cafetière, vous en servez longtemps quand elle est mauvaise. Bon, je ne suis pas contre. Cette promiscuité qui est gênante. Il y a l'artiste et puis il y a les objets manufacturés. Il ne faudrait pas mélanger les choses. Vous comprenez ? Bon. Et alors, ce monsieur, le directeur de la compagnie phonographique française, s'est ému des revendications de ce marchand, enfin, et a dit, vous ne voulez pas que la chanson paraisse, ben elle ne paraît pas. Alors moi, j'ai signé un contrat avec la compagnie phonographique française, et aujourd'hui, cette compagnie a rompu son contrat, comme ça, quoi, et c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est que mon disque paraisse. Je n'ai rien fait pour ça, et je veux. Et il se paraîtra, vous comprenez ?
Voilà. Alors, vous avez pris un avocat ?
Oui, j'ai pris un avocat, c'est embêtant, mais il faut bien. On est obligé d'avoir un avocat. Eux, ils en ont aussi un, hein, c'est tout, quoi.
Et pourquoi pensez-vous que le directeur de la société éditrice s'est incliné devant le monsieur que vous appelez un marchand ?
Je sais pas la raison. Exact, je pense que pour des questions d'argent, quoi, sûrement. Parce que le monsieur en question devait menacer l'autre monsieur directeur de la compagnie phonographique française. Il a dû lui dire, si ça ne marche pas, je vous enlève mon objet, n'est-ce pas ? C'est ça ?
La cafetière.
Oui, c'est ça, la cafetière. Comme la cafetière, paraît-il, est bonne, n'est-ce pas ? Et alors, c'est ça.
Ça, c'était le 20 septembre 1967. La chanson s'intitule « À une chanteuse morte », jamais disquée, quoi qu'en ait dit Léo Ferré. Il l'a cependant chantée quelques fois sur scène. Quelques 11 ans plus tard, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, 87-88, sur France Culture, Marc Legras et Louis-Jean Calvé ont remis sur le tapis cette histoire de chanson interdite. Le temps ayant passé, une vérité différente, vit le jour, une mise au point, quoi.
Il y a une erreur parce que c'était pas M. Stark. Yannis, c'est ce directeur. C'est Barclay que Barclay l'a foutu à la porte, parce que c'était le directeur qui ne valait pas trois pélos. Hein. Je l'ai su après. Parce que Stark, c'est un type intelligent dans son métier, très intelligent. Alors je m'étais étonné. Ça. J'ai su qu'il était. Qu'il n'avait rien fait, il n'était pas intervenu. Et on a mis ça sur le dos à ce type. Moi, j'avais cru, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais écrit à Barclay quand il a. Supprimer le disque, je lui dis, si vous êtes tous intelligents, vous faites une chose, et ce sera un succès formidable, c'est pas pour moi que je parle, c'est pour la chanteuse, il s'agissait de Mireille Mathieu, hein. Mais moi je la chante pas, mais vous la faites chanter à cette femme. Elle fera un succès énorme, parce qu'elle se moquera un peu d'elle-même. Pensez-vous, j'ai parlé pour ne rien dire, quoi.
De Léo Ferré à une chanteuse morte.
T'avais un nom d'oiseau, et tu chantais comme 110 000 oiseaux, qu'aurait la gorge en sang, à force de gueuler, même des conneries, mais avec quelle allure, t'étais un con de génie, t'étais un con de génie. T'avais un nom d'oiseau, et la voix d'Attila, on t'écoutait d'ici, on t'entendait de là-bas, t'étais à toi toute seule, le bal des petits lits noirs, un Wagner de Carrefour, un Bayreuth de trottoir, un Bayreuth de trottoir. Et il y avait dans tes mains, comme comme une bénédiction, et comme tu t'en servais pour bénir tous ces cons gentils, émus, qu'on appelle les gens, qui devenant publics, deviennent intelligents, deviennent intelligents. C'est pas toujours le cas, bien sûr, même à Paris, les auteurs de la merde, il faut que ça mange aussi. Toi, tu t'es débrouillé pour passer au travers, t'aurais chanté François comme de l'Apollinaire, comme de l'Apollinaire. On t'a pas remplacé, bien qu'on ait mis le paquet. Le pognon et ton ombre, ça peut pas s'expliquer sous les proches au miracle et sous la lamparque, quoi que fasse et que dise et que pense Monsieur Stark. Et que fasse Monsieur Stark. Arrêtez, arrêtez la musique.
Mireille Mathieu, bien sûr, ne chanta jamais une chanteuse morte. Catherine Sauvage, en revanche, oui. Et elle la chante toujours, d'ailleurs. Preuve, cet été, à La Rochelle, au Francofolie, invitée par Jean Guidoni dans sa fête, elle l'a placée entre Est ainsi que Les Hommes vivent et Avec le temps. 1967, c'est Noël, journal parlé de France Inter, au micro, Jean-Pierre Elkabbach.
Et pendant que les uns descendent les pistes enneigées ou préparent leur équipement pour les sports d'hiver, que d'autres passent ce premier réveillon au spectacle, des dizaines d'artistes, de chanteurs et de musiciens redoublent d'activité.
Oui, sans doute, puisque théâtre et cinéma affichent complet pendant les jours à venir, et surtout pour le réveillon, celui du jour de l'an en l'occurrence. L'atmosphère de recueillement de Noël a même donné des regrets à l'un de ses artistes, en l'occurrence Serge Gainsbourg. Il vient d'écrire et d'enregistrer une chanson.
Ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne Léo Ferré aussi, beaucoup de choses, mais ça je vous renvoie à une seule chose, c'est au numéro 8 de Chorus, les cahiers de la chanson, été 94, juillet, août, septembre. Un dossier spécial Léo Ferré, absolument complet, avec la bibliographie de Léo Ferré, c'est-à-dire les bouquins que lui-même a écrits, les bouquins qui lui ont été consacrés, sa discographie complète, et puis un dossier, donc ça veut dire des entretiens, ça veut dire des articles de fond, et puis ce fameux entretien dont nous diffusons également de larges extraits, qui a été réalisé par Jean-Louis Calvé et Marc Legras pour cette nuit de la Saint-Sylvestre sur France Culture en 87-88, donc 1er janvier, 31 décembre, 1er janvier. Et donc c'est la première fois que cet entretien est publié. Donc vous avez toutes les questions et les réponses. Enfin, c'est Chorus, donc les cahiers de la chanson, numéro 8, été 94, juillet, août, septembre. Il est en ce moment même dans les kiosques. Et puis pour ceux qui aiment vraiment Ferré, les textes de Ferré dans un livre édité par Gufo del Tramunto et qui s'intitule Testament phonographe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Véronique Amiot, Sandrine Bréchaud pour la technique, Corinne Valente, Philippe Debrenne. Merci à Lina et à Polygramme Vidéo, Janine Marc-Closet, Michel Alain Barjou, Alain Poulange. Nous vous souhaitons ni Dieu ni maître et vous disons à demain. France Inter, il est 21h.